Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plane's dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. Cette semaine, la toile se revêt des couleurs pastel du dernier film de Todd Haynes, Carol, sous les yeux de Mathias, Baptiste et Clément. Nous sommes à New York, dans les années 50. À la table d'un restaurant, Carol, Kate Blanchett, et Thérèse, Rooney Mara. La caméra suit un homme qui s'approche d'elle, les interrompt. Elle se sépare. Et l'on plonge alors dans le regard triste de Thérèse où se déroule tout ce qui a conduit à cette scène initiale. Leur rencontre dans le magasin de jouets où Thérèse travaillait, les gants oubliés par Carol, leur premier rendez-vous, le mari de Carol qui ne se résout pas au divorce et lui prend leur fille, le voyage des deux femmes à travers les États-Unis, toute la puissance de cet amour qui éclate entre elles, jusqu'à ce restaurant donc, à nouveau, où elles vont se retrouver après un douloureux éloignement pour un épilogue que je n'ai pas le droit de raconter ici. Je m'en remets donc à mes compagnons du jour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Carol ?
Alors, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé Carol, parce que du coup, je suis un grand fan de l'esthétique de Todd Haynes. J'aime beaucoup Kate Blanchett, qui est quand même magnifique dans ce film. Je pense que c'est un point dont on ne peut pas débattre. Le Rooney Mara, qui aussi donne une performance assez... assez singulière, et je trouve qu'on baigne quand même dans une ambiance apaisée, calme et quand même très, très sensuelle, dans une forme de relation assez, assez pudique. Et je trouve que c'est ce qui fait un peu la force du film, c'est sa pudeur assez, assez revendiquée, et ce qui peut apparaître aussi comme un défaut pour certains. Mais voilà, moi c'est un avis entièrement positif.
Moi aussi j'ai bien aimé. Bon, après contrairement à Mathias, je pense pas que j'ai vraiment adoré, parce qu'il y a certains passages où je sais pas, j'adhérais pas trop, mais ouais, j'ai bien aimé cette relation où c'est pas comme les films où tout se montre, c'était plus dans le jeu des regards, des sensations, de on devine ce qu'elle pense sans vraiment le savoir, toutes les scènes dans la voiture qu'elles passent ensemble sans forcément se parler ou en faisant des conversations pas forcément très utiles, mais qui révèlent toute une relation qui se met en place et qui est assez intéressante, je pense.
Alors bonjour Rémi, moi j'ai... Bonjour à tous. Moi c'est un film que j'ai bien aimé aussi, mais je ne suis pas aussi dithyrambique que Mathias. J'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques longueurs. Je ne suis pas totalement convaincu non plus par la représentation à l'écran de leur histoire d'amour, mais c'est par rapport à cette pudeur que tu as évoquée. J'ai trouvé ça trop... par moment peut-être un peu trop propre comme relation, c'est-à-dire que les scènes sont toujours extrêmement belles, il y a une attention portée au cadrage, à la lumière, et ça c'est, moi j'adhère complètement à cette esthétique, mais on les voit jamais, on les voit soit en train de se sourire et de se regarder, soit en train de se parler un petit peu, et ça s'arrête là dans la présentation de la relation. Ça c'est le point peut-être qui m'a un petit peu déçu et laissé sur ma faim, mais j'imagine que tu as des choses sur lesquelles nous faire réagir, donc je vais m'arrêter là.
Eh bien moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Alors, je peux pas commencer sans parler de la performance des deux actrices, qui est juste éblouissante. Et je trouve que ce film réussit quelque chose qui est rare, c'est-à-dire que moi, je suis allé voir ce film en m'attendant à voir une histoire d'amour homosexuel entre deux femmes dans la société cloisonnée des années 50. Et je suis sorti du film en ayant simplement vu une histoire d'amour. Et c'est ça que je trouve vraiment très très puissant dans ce film. C'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas sur leurs conditions plus qu'il le faudrait. Et c'est un des travers du cinéma généralement quand il traite ces sujets-là. Et je trouve que vraiment c'est extrêmement touchant de simplicité. Alors comme tu le dis Clément, la forme est parfaitement au service de ça aussi. Je comprends la mesure dans laquelle on peut ne pas adhérer. En ce qui me concerne, j'adhère pleinement.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Rémi, parce que si on considère ce film comme un film de regard puisque voilà, enfin c'est quand même le principe de la trame narrative, ce sont deux personnes qui se regardent et qui tombent amoureuses. On a enfin une forme d'abstraction de ce qu'on pourrait avoir comme un regard social autour de ces deux personnages. On n'a pas forcément un regard réprobateur qui apparaît, mais qui n'est pas l'enjeu principal de ce film, comme on peut avoir dans d'autres films qui traiteraient de ces mêmes sujets dans l'Amérique des années 50 ou 60. C'est ce que je trouve intéressant de ce fait de ce cocon-là qui est créé par le film.
Alors moi, je rebondis juste sur le personnage de Thérèse, parce que c'est un personnage qui m'a pas trop plu, en fait. Alors Kate Blanchett, hein, Carole et Kate Blanchett, j'ai eu aucun problème à adhérer au personnage, et finalement à ce personnage de femme mûre qui sait ce qu'elle veut et qui est tout à fait consciente de tout ce qui se passe à chaque moment. Thérèse, bon, c'était l'ingénue, le personnage qui sait pas trop ce qu'il veut, et elle le dit elle-même aussi, puisqu'elle dit « je ne sais pas dire non », elle le dit un moment pendant le film, mais... J'ai eu du mal, j'ai pas adhéré à son personnage du fait de ce côté ingénu. J'ai trouvé très lisse, en fait, toujours la même expression faciale, par exemple. J'ai eu un peu ce sentiment là ça m'a un petit peu j'ai pas trop adhéré au personnage.
Voilà. Justement, je trouve qu'il y a une progression assez intéressante dans le personnage de Thérèse, dans son ingénuité du début, puis dans la façon dont, ben, par exemple, le fait qu'elle se maquille à partir d'un certain moment, et puis elle prend des décisions. Justement, je trouve qu'il y a cette évolution dans le personnage de Thérèse qui me semblait intéressante.
Et par contre, je voulais rebondir sur Mathias et Rémi. Vous pensez que, pour vous, l'homosexualité, elle n'est pas trop... Pour vous, c'est une histoire d'amour avant une histoire homosexuelle, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même tout un jeu par rapport à ça. Je veux dire, c'est sûr, on est dans l'histoire d'amour, mais on a tout autour de nous, on a cette vision de la société. À un moment, il y a le copain de Thérèse qui lui dit c'est quelque chose, ça a une cause, c'est déclenché par quelque chose, je sais plus trop comment il dit, ou toute l'histoire avec son mari qui va refuser ou qui va condamner son histoire qu'elle avait eue avec une de ses amantes, qui est d'ailleurs la marraine de sa vie. Enfin, je trouve que on joue quand même assez avec l'homosexualité, qui reste assez tabou dans la société, même si c'est sûr qu'on est dans l'histoire d'amour, mais je trouve qu'on a le regard extérieur.
Bon, en fait, sur ça, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus présent dans le film, ne serait-ce qu'en ayant lu le speech et vu la bande-annonce. Je m'attendais vraiment à ce que cette emprise de la société sur la question soit très présente. Et j'ai été assez étonné aussi, en fait, en sortant dans un sens assez positif par ailleurs, que ce soit finalement assez peu présent.
Après, pour ce cloisonnement, justement, cet enfermement, Todd Haynes reprend ici tous les schémas classiques du mélo des années 50 qui font passer toutes ces choses-là dans l'implicite. C'est pas pour rien que le film s'ouvre sur une grille. C'est pas pour rien que les personnages sont constamment enfermés entre des murs, sauf pendant cette échappée en voiture à travers les États-Unis. Et symboliquement, il y a un enfermement qui est très très fort, mais l'intérêt justement du film est de le faire ressortir assez peu.
En même temps, l'échappée, je veux dire, dès qu'ils ont franchi, elles ont franchi le pas, elle est réprimée, mais d'une violence, quoi. Enfin, je pense que, je sais pas, la scène où elle passe à l'acte, justement, et que, justement, c'est réprimé parce qu'on les a vus, on les a condamnés, et que ça pourrait être servi contre elle.
Cette scène était magnifique, esthétiquement, ouais. Par ailleurs. Elle arrive tard, en plus, et c'est ça que j'ai trouvé... Ça, par contre, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans la représentation de l'homosexualité, c'est que les premiers gestes vraiment charnels et qu'on a entre elles, ça arrive extrêmement tard dans leur relation. Ça, j'ai trouvé ça très beau de...
Oui, ça, c'est pas la vie d'Adèle.
Ouais. Là, c'est d'abord une histoire de sentiment avant une histoire de corps, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment dire.
Oui, et ça participe d'une douceur qui est vraiment présente partout dans le film et dans le travail esthétique aussi. Vraiment, toutes ces lumières typiques aussi de ce type de film, qui sont aussi un écho au mélo des années 50. Il y a certaines scènes, le visage de Rooney Mara à travers une vitre pleine de pluie la nuit, c'est presque un cliché. On croirait voir Audrey Hepburn.
Oui, oui. Et je trouve ça intéressant de jouer quand même sur des stéréotypes, sur des images ultra féminines, comme Kate Blanchett, qui est blonde, qui est magnifique, l'autre qui a quand même des airs d'Audrey Hepburn, et de ne pas en faire une forme de sexualisation à outrance, et voilà, et montrer quand même que ces femmes sont je vais pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais entièrement femme.
Mais non, en fait, voilà, dans l'image de la société.
Voilà, dans une représentation d'une féminité complètement assumée, voilà, indépendamment de la représentation contemporaine de la femme qui va vouloir se faire homme, non seulement pour accéder à un statut social, mais aussi pour revendiquer une sexualité. Et donc là, du coup, ce sont quand même des personnages qui sont entiers et qui n'ont pas besoin de faire des compromis pour être ce qu'elles sont, en fait.
Oui, puis là-dessus, c'est quand même un film qui parle de l'émancipation, outre le fait qu'on a une romance entre deux femmes dans les années 50. On a Kate Blanchett, enfin, on a Carole, qui est une femme complètement indépendante, en tous les cas, qui apparaît comme complètement indépendante, même si elle est rattrapée par son mari, par tout ça. À la fin, elle trouve un travail, quand même. Enfin, il y a le divorce. C'est quand même vraiment un film qui parle de l'émancipation de l'émancipation des femmes sous tout un tas de formes, et ça, c'est chouette.
Encore beaucoup, beaucoup de films à voir pour meubler vos soirées en ces temps de reprise des cours. On commence avec Chorus de François Delisle, qui raconte l'histoire d'un couple, Christophe et Irène, séparés après la disparition de leur fils de 8 ans. Lui a fui ses souvenirs au Mexique. Elle se voue au chant qui est sa seule échappatoire dans les idées noires qui meublent son quotidien. Un jour, on retrouve le meurtrier et le corps de l'enfant. Ils se retrouvent. Le réalisateur regarde ce bouleversement dans un noir et blanc pur et dépouillé avec une rigoureuse simplicité. On continue avec 45 ans, film qui sort aujourd'hui et qui a valu à ses acteurs les prix d'interprétation masculine et féminine à Berlin. Charlotte Rampling et Tom Courtenay sont Kate et Geoff, couple tranquille et sans histoire qui se prépare à fêter leurs 45 ans de mariage. Lorsque Geoff reçoit une lettre, le corps de son ancienne fiancée disparue dans les Alpes a été retrouvé. Et petit à petit, ce deuil ressurgit, toujours aussi présent, creusant insensiblement une fissure amère dans l'intimité de Geoff et de Kate, laquelle voit vaciller tous les repères de ses 45 années de mariage. Les deux acteurs sont monumentaux. Ça s'appelle 45 ans, c'est réalisé par Andrew Hay, et ça sort donc aujourd'hui. On finit avec Les Premiers les Derniers, qui sort aujourd'hui également, du belge Bully Lanners, et qui peint une lande balayée par le vent, où deux chasseurs de primes cherchent un téléphone portable perdu par un personnage influent. Dans leur recherche, ils croisent un couple en cavale, Esther et Willy, et atterrissent dans un village perdu, isolé du monde, hors du temps, où ils vont être confrontés à la violence locale et à leurs propres angoisses. C'est Albert Dupontel et Bully Lanners lui-même qui sont les personnages principaux de ce western moderne, lugubre et électrique. Je vous renvoie donc aux bandes-annonces pour vous faire une idée. J'en profite pour vous rappeler de ne pas manquer la projection du Rocky Horror Picture Show organisée ce soir, donc mercredi 27, en salle Cantor, par Champ Libre. Si vous n'avez toujours pas vu ce film mythique ou si vous voulez le revoir, c'est le moment. En attendant mercredi prochain pour un numéro un peu spécial, je vous souhaite une bonne semaine dans les salles obscures. Étoile plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Mathias, Baptiste et Clément, et à bientôt sur Transistor.